Chère auditrice, cher auditeur de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Lutte contre les préjugés et dialogue interculturel et citoyen. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois invités, Michel Lévy, le père Raphaël Clément et le pasteur Marcel Benga. Nos concitoyens savent que nous sommes dans une période particulière pour les gens qui participent de ces grandes religions monothéistes. Nous arrivons dans la période de Pâques, nous sommes déjà dans la période de Pâques pour les chrétiens, et nous arrivons bientôt à Pessah pour les gens du monde juif. Je vous remercie donc de bien vouloir inaugurer cette première émission, dont je rappelle simplement en quelques mots qu'un des objectifs, c'est de lutter contre les préjugés, qui mènent notamment à l'antisémitisme, voire même l'antimonothéisme d'une manière générale, par le biais du développement d'un dialogue interculturel et interreligieux, où nous essaierons de déconstruire les préjugés, et de voir comment nous pouvons, dans notre pays, continuer à avoir un projet commun dans le respect de l'altérité, où d'ailleurs la laïcité protège les libertés d'opinion, de pensée et de culte. Je vous propose peut-être, Michel Lévy, de commencer à introduire votre propos concernant la fête de Pessah.
Oui, bonjour tout le monde. La fête de Pessah ou la fête de Pâques, Pessah, c'est le passage. Et on dit aussi que Pessah, ça veut dire Pessah, qui voudrait dire en hébreu « la bouche parle ». C'est une fête, en quelque sorte, de la transmission, qui est le point de vue le plus important. Mais aussi, dans l'histoire, nous avons dans le judaïsme trois grandes fêtes de pèlerinage, qui sont des fêtes qui sont en fin de compte liées. On a la fête de Pâques, de Pessah, la fête de Pentecôte, que nous appelons Shavuot, qui veut dire à la fois les serments et puis les semaines, et enfin la fête des cabanes, que nous appelons Sukkot. Alors, bien sûr, ce sont les cycles de la saison. C'est Pessah, c'est le printemps, Shavuot, c'est l'été, et puis Sukkot, c'est l'automne. Mais aussi, ça s'inscrit dans la naissance spirituelle. Pâques, Pessah, c'est la fin de l'esclavage, début de la liberté. Et Shavuot, c'est le don de la Torah, le don de la loi. Et Sukkot, on marche dans le désert et on construit le temple. Mais c'est aussi les cycles de la vie. Pessah, c'est la naissance d'un peuple. Shavuot, c'est son mariage avec Dieu par le don de la Torah. Et Sukkot, on marche dans le désert, on s'installe, on construit le temple et on retourne dans le nomadisme à travers les cabanes que l'on construit. Donc, à Pâques, on se nourrit, nous, de pain azim. On enlève tout ce qui est levain, tout ce qui est levure, tout ce qui gonfle, tout l'orgueil, toute la vanité. On est beaucoup plus simple. Alors, ce que nous appelons nous Hametz, c'est-à-dire la levure, tout simplement, eh ben, on ne l'aura pas, ce ne sera pas vu, et on l'enlève. Et surtout, cette fête est marquée par un repas qui est un véritable psychodrame. On revit tous la sortie d'Égypte comme si c'était nous-mêmes qui étions sortis d'Égypte.
Michel Lévy, je vous arrête. Merci pour cette introduction.
J'avais fini.
Avant de parler du Seder, de Pessah, je vous propose, pasteur Marcel Benga, de bien vouloir présenter votre propos.
Oui, bonjour à tous et merci, monsieur Lévy, pour cette présentation de la fête de Pessah juive, qui est, de mon point de vue, l'origine aussi, d'une certaine manière, de la fête chrétienne. La dimension du passage, la dimension de la vie est vraiment inscrite aussi dans la fête de la Pâque chrétienne. Donc, Pâque chrétienne, c'est ce passage de la mort à la vie, c'est cette victoire de la vie sur la mort. Et pas simplement la mort qui serait une fin physique de l'existence, mais c'est bien d'autres dimensions encore qu'il faut traverser, comme la peur, le désespoir, les trahisons, tout ce qui pèse et qui peut conduire d'ailleurs à la mort des uns et des autres. Et donc la fête de Pâques vient aussi répondre à cette espérance qui est inscrite en nous et dire que rien ne peut l'emporter sur la vie.
Père Raphaël Clément, je vous propose de prendre le relais.
Mais merci beaucoup. Merci à Michel Lévy, puis merci au pasteur Benguin de nous avoir donné déjà des beaux éléments de présentation sur lesquels on se rejoint bien, parce que la question du passage de la mort à la vie, c'est vraiment ce qui nous structure, ce qui nous fait célébrer cette fête. Moi, j'aurais voulu juste ajouter un petit élément, c'est-à-dire que l'élément de l'événement. Voilà, il y a un événement fondateur. Donc, de la même manière que la traversée de la mer Rouge, la sortie d'Égypte était l'événement fondateur pour le peuple d'Israël, eh bien, il y a un événement fondateur qui est commémoré dans cette Pâque chrétienne, qui est la mort et la résurrection de Jésus. Voilà, c'est vraiment l'espèce d'événement, voilà, de cette réalité fondatrice de ce passage, comme on l'a dit il y a quelques instants. Je me souviens aussi que, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, c'est que le Pessah, c'est aussi l'agneau. Manger la Pâque, c'est manger l'agneau. Et pour les chrétiens, il y a cette grande dimension que ben, l'agneau, c'est lui. Jésus, c'est lui, l'agneau. Et donc, ce qui est central, donc, c'est que dans cette mort dramatique et dans cette résurrection extraordinaire, miraculeuse, comme le disait le pasteur Benga, on passe de la mort à la vie. Lui passe de la mort à la vie, et nous, avec lui, nous passons de la mort à la vie. Nous, individuellement, et nous, collectivement, également.
Merci beaucoup. Pasteur Benga, peut-être préciser, vous, en lien avec le Père Clément, nous sommes dans la période, je crois, de Pâques, hein, nous y sommes déjà. Peut-être préciser pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément ces réalités, comment ça se vit, comment ça se passe actuellement, en termes de fêtes, d'organisation, de temps.
Alors peut-être qu'il faut préciser, pour entrer et répondre à cette question, le calendrier serré de la semaine. On peut imaginer que cet événement dont parle le Père Clément part depuis tout le temps du carême. Mais voilà, mais je voudrais qu'on se concentre sur ce calendrier plutôt court, qui est sur une semaine, d'un dimanche à un autre, donc un cycle de 8 jours, où on ouvre cette semaine avec la fête des Rameaux, une semaine avant la fête chrétienne, le dimanche qui précède le jour de célébration de Pâques, c'est le dimanche des Rameaux, et c'est un jour particulier, ce jour où Jésus est entré solennellement dans la ville de Jérusalem. Et cette entrée va être un moment décisif aussi, parce que une fois entré à Jérusalem, il sait qu'il va affronter la mort, et il a annoncé déjà à ses disciples que cette mort n'aura pas le dernier mot sur lui. Donc on a cette célébration qui est une grande fête, où les foules sont en liesse, où il est acclamé comme roi, il est reconnu comme fils de David, et puis il aura de longs enseignements au cours de ces 4 jours qui vont suivre son entrée à Jérusalem. Il va donner, d'après tous les évangiles d'ailleurs, un certain nombre d'enseignements pour le conduire à ce jeudi soir, où il va célébrer la Pâque, pas la Pâque chrétienne, on va dire la Pâque juive. Il va manger ce repas de Pâque avec ses disciples, et là, il va donner des recommandations à suivre par ses disciples que nous célébrons aujourd'hui par l'Eucharistie, la scène, on pourra peut-être y revenir. Et puis, le vendredi, c'est le jour de sa mise à mort, donc c'est vraiment un jour de deuil, un jour où les chrétiens comprennent qu'il se joue quelque chose le Père Clément parlait d'événements. Oui, la mort est un événement particulier parce qu'il se déroule au vu et au su de tout le monde. Et là, de cet événement-là, qui est la mort et la mort sur la croix, cet événement va plonger les disciples dans un désarroi total jusqu'à ce dimanche matin de Pâques. Vous voyez, c'est vraiment toute une semaine qui est mélangée de liesse, de joie, de vie communautaire, d'enseignement, de tristesse pour en sortir vers la vie, le jour de Pâques.
Je me permets, parce qu'on parle de joie et de liesse, avant de redonner la parole à Michel Lévy, de demander au Père Clément. Il y a une cathédrale à Dijon qui s'appelle la cathédrale Bénigne, je crois, où j'ai eu la chance d'aller quelques fois. Et j'ai vu qu'il y avait une chorale assez extraordinaire dans cette période. Peut-être en dire un mot, pour rappeler aussi que c'est un moment magnifique, culturel aussi, si je peux me permettre, pour revenir peut-être sur le sens de cette journée la plus joyeuse dont parlait le pasteur Benga.
C'est vrai qu'il y a un certain nombre de grands édifices en France qui sont connus. Alors, on va à Chartres pour ses vitraux, pour la lumière. On va dans d'autres endroits pour l'orgue, on va à d'autres endroits pour la pierre, on va à d'autres endroits pour le bois, etc. Et on dit souvent qu'on va à Dijon pour le son, pour la musique. Et il y a une maîtrise qui est assez ancienne, qui a eu un grand chef qui s'appelait Monsieur Joseph Sanson dans les années 50, qui a été quelqu'un qui a un son. Sans son, il y a vraiment une manière de chanter de manière très particulière qui est très belle. Et du coup, les grands offices de fête de l'année, en particulier ceux qu'on appelle la Semaine Sainte, qui nous achemine à Pâques, qui sont accompagnés par cet ensemble, hein, c'est une centaine de jeunes et de moins jeunes. Dans Dijon, d'ailleurs, ce qu'on appelle les maîtrisiens, ceux qui sont passés par la maîtrise, c'est vraiment. Un titre, pas d'orgueil, mais enfin une certaine fierté. Et je suis fier d'être maîtrisien.
Michel Lévy, vous avez parlé tout à l'heure de la transmission comme un élément central de la fête de Pessah. Peut-être vous pourriez nous parler du repas de Pessah, qui est un moment très important dans les familles juives.
Raphaël Clément nous a parlé de chansons, de musique, d'une cérémonie grandiose. Et pour nous, Pâques est familiale. Il n'y a pas. On a des belles cérémonies pour Yom Kippour, le Grand Pardon ou d'autres choses. Mais Pâques, non. Pâques, le plus important, ça se passe chez nous. Ou alors, tout le monde se réunit autour de la table et on raconte la sortie d'Égypte. Et plus on en parle, plus on a de mérite. Ce qui est aussi étonnant, c'est que dès le début, le plus important, ce sont les petits-enfants. Alors, on met un tas de choses au début uniquement pour attirer leur attention. On met de la laitue, des herbes amères, du mortier, on met un tas de choses tout de suite, on fait un tas de choses là-dessus. Et après, on commence à raconter l'histoire, et ça commence avec le plus jeune qui chante en quoi cette nuit se distingue des autres nuits avec un air traditionnel. Et les petits-enfants chantent Ma nishtana alayla razeh mikol alelot. Et puis tous les adultes répondent qu'est-ce qui distingue cette nuit des autres nuits? Alors, les autres nuits, on mange assis et aussi on mange allongé. La coutume qui est romaine voulait que les hommes libres mangent sur des canapés allongés et que les esclaves y mangent accroupis par terre. Donc, dans le seder, il faudrait normalement manger allongé. Comme on ne fait pas, on s'accoude simplement actuellement. Bon, c'est un petit moment où les tout petits sont à l'honneur. Et après, le plus important, on parle de quatre enfants qui sont autour de la table. Il y a le sage, c'est pas un juste. Il est instruit. Et lui, il pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ces lois, ces préceptes, ces dogmes que nous célébrons à Pâques? C'est-à-dire qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre la nuance des différents termes juridiques. Alors on lui explique de façon savante. Et celui d'après qui parle, c'est le mécréant. Souvent, on traduit le méchant, mais il n'est pas méchant, il croit en rien. Elle a dit, qu'est-ce que c'est que pour vous, tous ces trucs, tous ces machins que vous faites? Et alors, on lui répond, c'est Dieu qui nous l'a ordonné, et nous, on sera sauvés. Si tu continues comme ça, ça n'ira pas. Donc. Et puis, il y a le troisième qui est le... Lui, c'est un petit peu l'imbécile de la famille, le bonnet, disons, c'est comme ça que je le qualifierais. Alors lui, on lui explique simplement pour qu'il puisse comprendre. Et enfin, il y a celui qui ne s'est pas posé de questions. Alors on lui en parle. Et celui qui ne s'est pas posé de questions, c'est le gars qui est complètement étranger à tout ça. C'est-à-dire, c'est le juif qui ne fréquente plus les synagogues depuis des années. Et il ne comprend même pas qu'il y a un problème, il ne sait même pas ce que ça veut dire, Pâques. Donc, il faut tout lui dire. On peut dire que c'est peut-être le petit enfant, mais c'est peut-être aussi un adulte. Et nous, malheureusement, de nos jours, on a aussi le cinquième enfant, celui qui ne vient plus au CEDER, et qu'on aimerait tellement voir avec nous.
Oui, les quatre premiers étant peut-être la même personne à des moments différents, et évidemment. Ce CEDER... Donc, comment ça se passe, juste en quelques mots?
Alors après, bon, ensuite, on raconte toute l'histoire et c'est uniquement des passages de la Bible, pour ainsi dire, ou très peu de passages du Talmud. Il y a un passage qui est un petit peu amusant, où on raconte que quatre rabbins, Rabbi Tarfon, bon, les noms, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiba, discutaient ensemble de la sortie d'Égypte, quand à ce moment... Le gars, à leur disciple qui était à la porte, leur dit, maître, c'est l'heure du matin, il faut réciter la prière du matin. Alors on se pose la question, mais pourquoi y avait-il des gardiens pour leur dire l'heure du matin? Qu'est-ce qu'ils faisaient dehors? Ils auraient dû étudier avec eux. Et on a dit, mais ils parlaient de la liberté. Et à travers la liberté, en fait, ils pensaient à se libérer contre Rome. Et en fait, ils complotaient. C'est un petit peu une histoire. Ça s'est passé avant la révolte de Bar Kochba. Et là-dessus, on va rejoindre justement cette période qui est l'attente du Sauveur, aussi bien chez les Juifs que chez les chrétiens. Et c'est là qu'il y a eu un petit peu une différence. Et les Juifs ont pensé à un Sauveur qui rétablirait la royauté de David, éventuellement par les armes, alors que les chrétiens, eux ont suivi Jésus qui lui parlait plutôt amour qu'arme, en quelque sorte, pour la délivrance. Mais pour les Juifs, comme pour les chrétiens, comme pour tout le monde à l'époque, c'était l'attente de la liberté. Et on pensait à la liberté en Égypte, et on repensait à la liberté à cette époque dramatique de l'occupation romaine.
Alors, peut-être, suite à votre propos, dire un mot sur... on a beaucoup parlé, on voit les points communs, on voit la force des points communs, mais... Comment s'est construit cette séparation, si je peux utiliser ce terme qui, à mon avis, n'est pas à propos, mais je me permets d'utiliser. Et parce que les gens nous demandent si les Juifs et les chrétiens, pourquoi il y a des Juifs et des chrétiens si le message est le même, si l'espérance est la même. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet endroit, de ce frottement entre deux histoires qui se séparent en quelque sorte?
Alors, votre question est intéressante parce que, de fait, dans la relation du christianisme avec le judaïsme, c'est une relation à la fois de continuité et de discontinuité, si je peux dire comme ça. Sur les éléments de continuité, il y a le fait que Jésus, comme le disait le pasteur Benga tout à l'heure, Jésus a vécu sa Pâque. Il a célébré cette Pâque juive, on en a un récit dans trois des quatre évangiles, avec des points de nuance justement. La discontinuité arrive déjà. Par exemple, l'élément central de ce repas de Jésus, c'est pas l'agneau qui était sur les tables du Seder à l'époque, avant la destruction du temple, mais c'est plutôt le pain et le vin. Ils sont deux éléments, c'est pas les herbes amères non plus. Donc rien que dans la matérialité de ce repas de Jésus, le point central n'est plus tout à fait les points d'insistance du CDR juif, mais d'autres éléments, du pain et du vin, dont il va faire quelque chose d'assez essentiel pour la suite. Il va en faire un élément essentiel. Un autre élément de discontinuité, c'est, comme vous le disiez très justement, Michel, tout à l'heure, le CDR est domestique, se vit dans la maison, alors que la célébration du repas donc la célébration de ce repas pascal, mais qu'on va appeler différemment maintenant, l'Eucharistie, la scène, selon les différentes traditions chrétiennes, il va pas se célébrer à la maison. Il va se célébrer d'emblée dans un autre lieu, et dans un lieu public, dans un lieu commun, dans un lieu, donc les églises, les temples, et très vite, en fait, on le voit très vite, c'est très bien repéré, très bien documenté d'un point de vue historique. Donc c'est un mélange très curieux de continuité et de discontinuité. Je me permets de rajouter deux éléments de continuité. Par exemple, il y a un élément très, très beau, très fort, Michel Lévy le disait tout à l'heure, c'était la notion de mémorial, c'est-à-dire on le fait, de génération en génération, on le fait. Et si je me souviens bien, mais Michel Lévy me corrigera, on dit même dans le CEDER, à chaque génération, celui qui prend part à ce repas doit se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Ça veut dire que la réitération est performative, alors pardon d'utiliser des gros mots, oui. Mais la réitération fait entrer dans l'événement. C'est très important, ce n'est pas un pieux souvenir du passé. La réitération fait rentrer dans l'événement. Et alors là, en milieu chrétien, on est vraiment en plein dedans, si je puis dire, donc un élément de continuité. Et de la même manière, la transmission. Dans les écrits postérieurs, dans le christianisme, il y a quelqu'un qui s'appelle Paul de Tars, qui dira « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu ». Et 2000 ans après, c'est notre tâche, je pense que comme pasteur, moi comme prêtre, c'est notre tâche de transmettre ce que nous avons reçu et d'aider nos fidèles à eux-mêmes vivre et transmettre ce qu'ils ont reçu. J'ai trop parlé.
Non, mais c'est très bien. Je partage absolument cette idée de voir dans le christianisme et dans le judaïsme, cette idée de, en tout cas dans le christianisme, l'idée de la continuité du judaïsme et aussi de la discontinuité. Je partage, et d'ailleurs là où vous terminez votre propos sur la transmission, je pourrais peut-être dire que vous avez aussi parlé fortement aussi de la transmission, Monsieur Lévy, c'est de dire que pour nous, la transmission passe par la pédagogie aussi. Et quoi de mieux que notre calendrier liturgique, je reviens là-dessus. Je me souviens que les réformateurs qui ont permis la naissance du protestantisme ont beaucoup hésité sur ces questions de fête chrétienne en se disant est-ce qu'il faut les maintenir, est-ce qu'il ne faut pas se concentrer sur les écritures et puis travailler sa méditation et avoir sa relation avec Dieu. Alors, ils en sont venus tous à se dire il faut maintenir le calendrier liturgique et les fêtes, toutes ces fêtes que nous avons à fêter, tout simplement pour des raisons pédagogiques. Et donc, du coup, je crois qu'il y a là aussi cette continuité de se dire par ce calendrier liturgique, par ces fêtes que nous célébrons d'année en année et qui reviennent dans ces cycles, dans ces différents cycles, cela permet cette continuité. Et puis, je suis aussi d'accord avec le Père Clément sur l'idée que le repas va se faire de manière solennelle dans un autre lieu que chez nous, mais en même temps, il y a aussi cette phrase qu'on prête à Jésus dans toutes nos célébrations, pour la célébration de l'Eucharistie, de la scène selon nos traditions, c'est de dire « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. » Donc, on peut aussi laisser entendre que il y a cette phrase, cette exhortation que Jésus donne à ses disciples que nous sommes, de dire « Je suis à vos portes de vos maisons, je frappe, ouvrez-moi et je viens et nous pouvons célébrer ensemble cette vie. » Je pense que, oui, on peut entendre cette idée de dire « La célébration de cette vie, de cette victoire se passe dans des lieux, dans nos églises, dans nos temples et dans les rassemblements communautaires. » Mais aussi, on peut aussi entendre que on peut le célébrer aussi dans nos cœurs, dans nos vies personnelles, qu'on ne peut pas dissocier d'une certaine manière de la vie communautaire. Et donc, je pense que il y a dans le christianisme, cette dimension aussi de cette relation personnelle que nous pouvons avoir avec le Christ qui vient à nous et qui frappe et qui veut entrer, y compris dans nos cœurs, dans nos maisons personnelles particulières, pour célébrer avec nous. Je pense qu'il y a aussi quelque peu ces deux dimensions.
Michel Lévy, vous vouliez réagir.
Oui, alors, petite remarque. Quand vous avez dit là, entrez, venez.
Oui.
Eh bien, le début du céder, le début de l'histoire dans le texte, dans le début du céder, le texte que nous disons, il commence justement par cette phrase. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Quiconque a faim, qu'il vienne, mange pour célébrer Pâques avec nous. Cette année, nous sommes ici, l'an prochain dans le pays d'Israël. Cette année, esclave, l'an prochain, libre. Donc on retrouve cette notion d'invitation que je viens d'écouter, qui me plaît beaucoup, et avec une ambiguïté, parce que on dit cette année ici, l'an prochain dans le pays d'Israël, cette année esclave, l'an prochain libre, et on se pose la question, est-ce que, comme on revit la sortie d'Égypte, est-ce qu'on se place à l'époque égyptienne et l'on envisagera la sortie d'Égypte et tout le reste, ou est-ce qu'on se place aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes esclaves ou pas? Et nous sommes esclaves de quoi?
Alors, je me permets de faire le lien après cette belle remarque, cette belle question, avec, on ne va pas dire l'actualité. Disons une question fondamentale. Votre présence ici à Shalom Bourgogne a à voir avec le fait que nous souhaitons contribuer à ce que nos auditeurs et auditrices connaissent les différents courants spirituels et religieux qui sont dans notre pays, qui contribuent à la vie, à la qualité de la vie des personnes et des citoyens et des citoyennes. Nous sommes dans une période trouble, montée des extrêmes, comme un désir d'un pouvoir très fort, très autoritaire, et notamment une montée de l'antisémitisme. Nous savons que les églises que vous représentez, les croyants que vous représentez, les autorités que vous représentez, depuis longtemps se parlent et ont abouti à trouver une solution de respect et de partage pour permettre à ce que ces différentes religions et les gens qui participent vivent ensemble et respectent les lois, notamment de la République, puisque nous sommes en France. Qu'est-ce que vous pourriez, à partir de cette période qui, on le sent, est très importante dans vos religions, Pâques et Pessah, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ce contexte et à nos auditrices et auditeurs pour contribuer, puisque c'est un objectif, à ce que, plutôt que de se diviser, les Français se rassemblent et réfléchissent ensemble à un projet commun?
C'est une très bonne question, parce que de fait, on est rattrapé par l'actualité, mais en fait c'est une question de tous les temps. Je dirais que là, depuis une soixantaine d'années, dans l'Église catholique, il y a eu un vrai travail, d'une part de dialogue avec nos frères juifs, d'un vrai dialogue, initié en particulier par quelqu'un d'une très très grande qualité qui s'appelait Jules Isaac. Et ce dialogue a abouti à une ressaisie de l'histoire du catholicisme du point de vue d'une forme d'anti-judaïsme plus que latent qui a été disséminée tout au long de l'histoire et dont malheureusement tant et tant d'événements, hélas, l'ont concrétisé, l'ont incarné, cet anti-judaïsme. Et moi, je suis, de façon officielle et institutionnelle, le délégué de l'archevêque de Dijon pour les relations avec les Juifs. Et donc, dans ce cadre-là, bon, il y a du dialogue, il y a de l'amitié aussi, on peut le dire. Mais dans ce cadre-là, il y a aussi tout un travail de connaissance du judaïsme, d'aider à la connaissance du judaïsme, comme le disait le pasteur Manguin tout à l'heure, d'aider à découvrir nos racines juives. C'est-à-dire, on ne peut pas lire l'évangile, on ne peut pas lire la partie chrétienne de la Bible comme étant descendue du ciel d'une façon désincarnée. Donc ça, ce point-là est très 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 important. Et pour illustrer mon propos, c'est en même temps une information. Le 16 mai va être inaugurée une petite exposition qui tourne en France, qui a été montée en lien avec le mémorial de la Shoah et également avec Yad Vashem à Jérusalem, qui est une exposition sur les justes. Tous ces justes qui, pendant le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, ont œuvré, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a beaucoup de protestants d'ailleurs, qui ont œuvré à sauver des vies, à sauver une vie, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et qui ont été reconnus. Et qui sont peu connus, en fait, dans le monde catholique.
Absolument.
Ils sont peu connus dans le monde catholique.
Alors qu'ils sont assez nombreux.
Rien que cette information-là participe à cet effort pédagogique dont on parlait tout à l'heure.
Oui, je peux rajouter à ceci, je partage totalement toute cette dimension que le Père Clément vient d'évoquer et de dire que vraiment nous sommes préoccupés vraiment par cette montée de l'antisémitisme où on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi ça n'arrête pas malgré tout ce qui est fait, toutes les déconstructions que nous pouvons mener dans des actions diverses et variées, dans les rencontres, dans l'amitié, dans la connaissance, jusque-là, nous n'arrivons pas à atteindre ces radicaux qui sèment la mort. Mais j'ai toujours envie de dire cette phrase aussi que nous trouvons dans les évangiles, viens et vois, ou venez et voyez. Comment est-ce qu'il y a une amitié entre nous? Et je crois que c'est cette amitié que nous montrons nos liens, comment est-ce que nous fréquentons nos différents lieux. Et moi, dans ma tradition protestante, nous avons les adolescents qui font une confirmation lorsqu'ils ont 14, 15, 16 ans de leur baptême, ou ils font leur baptême lorsqu'ils ne l'ont pas eu quand ils étaient enfants. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais conduit des enfants, des adolescents à la confirmation sans les avoir conduits dans des synagogues tout au long de leur formation. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours exercé, et ici à Dijon, depuis que je suis là, on va à la synagogue aussi pour le faire. Et quand j'ai commencé mon ministère de pasteur dans les Vosges, et tout de suite, lorsque je suis arrivé, un de nos temples dans une petite ville de Senon, dans la paroisse où j'étais pasteur, le temple de Senon était une synagogue. Et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs de Senon, dans les Vosges, ont donné la synagogue aux protestants en leur disant « Voici notre synagogue, faites-en un temple. » Et la synagogue de Senon est aujourd'hui le temple de notre église dans les Vosges. Et dès le début de mon ministère, j'ai commencé avec cette réalité. Et nous étions toujours les uns avec les autres, les uns chez les autres, nos enfants protestants fréquentaient beaucoup la synagogue qui était à Saint-Dié. Donc voilà, donc on a c'est une réalité de vie que nous avons, et le Père Clément a donné les autres lieux où œcuméniquement et interreligieusement nous nous retrouvons, et je pense que c'est intéressant. Et la seule chose que je peux dire aux gens, venez et voyez comment est-ce que cette amitié-là se développe entre nous, et c'est cela, et peut-être par cela que nous pouvons contribuer à éveiller un peu les esprits.
Bien, je crois que nous arrivons au bout de notre émission, cette première émission de cette nouvelle émission, dont je rappelle que le titre est « Lutter contre les préjugés » et dialogue interculturel et citoyen. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message particulier pour nos auditrices et auditeurs?
Moi, je souhaiterais la joie, parce que c'est une fête de joie, donc je souhaiterais la joie, et de retrouver la joie, vraiment de retrouver le sens de la joie. Je pense que d'un point de vue de notre société, en 2024. Pour plein de raisons, dans plein de domaines, la joie est émoussée un peu partout. Donc ça puisse être une joie.
Michel Lévy.
Moi, je voudrais dire aussi, d'abord, je remercie beaucoup... merci beaucoup Marcel pour Marcel Menda pour ce qu'il nous a dit. Effectivement, j'ai passé mon enfance en Alsace et on avait des relations un petit peu privilégiées avec notamment moi j'étais aux éclaireurs israélites avec des éclaireurs unionistes avec qui en tant que minoritaire on se sentait un peu solidaire hein. Mais avant tout n'oublions jamais que Satan, Amalek est en nous et que personne n'est à l'abri des préjugés sur les autres. Et c'est à chacun d'entre nous, y compris aux Juifs, à vérifier que en eux, que c'est le bien qui l'emporte. Il faut avoir conscience que nous avons tous des mauvais penchants. Donc notre rôle à nous, Satan est à nos pieds. Et c'est à nous de le dominer. Et ça, c'est un point commun entre tous. Nous sommes tous frères et nous sommes tous tentés par le Satan, en quelque sorte. Et à Pâques, on doit se libérer et on doit être vraiment libre. Et on espère un rapprochement avec Dieu, avec la fraternité. Et on dit que pendant que les Égyptiens se noyaient dans la mer Rouge, je crois que c'était... La sœur de Moïse, Myriam avait dansé et chanté. Dans la tradition juive, Dieu s'était fâché et lui avait dit « Comment toi tu danses pendant que mes enfants se noient ?» Alors prions tous pour la fraternité, pour la joie, à l'occasion de Pâques.
Voilà, et moi je rajouterais simplement à cela le terme de l'espérance. Je trouve que ça vient aussi s'ajouter à ce que vous avez dit. L'espérance. Et l'espérance que nous fêtons à Pâques est d'abord et avant tout une prise en compte du fait que c'est pas parce que la vie l'emporte, c'est pas parce que la mort est vaincue que ces dimensions de mort sont effacées. Non, c'est là présent, la réalité de nos préjugés, la réalité de nos trahisons, la réalité de nos morts, de toutes nos difficultés, ces réalités restent présentes à nous, mais Pâques vient nous dire que tout cela n'est plus totalement opérant dans nos vies et nous ouvrons à une espérance de autre chose que cela. Moi, je trouve que Pâques, c'est aussi cela, de ne pas nier, de ne pas escamoter nos difficultés, de les prendre à bras le corps, mais de savoir aussi que ces difficultés et toutes ces morts-là sont maintenant vaincues.
Mais écoutez, je vous remercie d'avoir inauguré cette nouvelle émission pour contribuer à lutter contre l'ignorance et contre les préjugés. Donc je rappelle qu'autour de la table, nous avions le pasteur Marcel Benga, le père Raphaël Clément et Michel Lévy, et présent mais silencieusement un des responsables de cette émission, le professeur Rendrian. Très bien, vous étiez donc dans votre émission Lutter contre les préjugés et dialogue interculturel citoyen. À bientôt sur Shalom Bourgogne.
Merci.